Oui, je m'entends. Ok, bonsoir, les amis de Dieu, bonsoir. Nous sommes la famille de Dieu ensemble et je vais prier, Père Céleste, je te prie que tu sois notre guide, notre diffuseur de savoir, nous savons tout ce que tu es, mais je te prie d'intensifier par moment ce que tu veux nous dire. Merci. Merci d'accompagner ce court message. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai choisi... En fait, de parler assez, pas mal de quelqu'un qui ne mérite pas qu'on parle de lui. Vraiment, il ne mérite pas qu'on parle de lui. Mais Dieu en parle dans la Bible et il nous met en garde. Et vous avez deviné, je pense, c'est le diable. Et je dirais qu'on peut dire qu'il est le menteur en chef. Alors, nous avons un verset très très fort. Je vous dis pourquoi. Parce que Jésus a dit cela à des responsables connaissant la parfaite loi de Dieu. Et il a dit ça en Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Nous, on a le Père Céleste. Hein, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été, il faut que je sorte de la four, était meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Le mot persévérer, il y a une indication qui donne ne s'est pas tenu debout dans la vérité. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et je relève que un des principaux buts du diable, c'est de faire croire que Dieu ne dit pas la vérité. Alors que c'est vraiment le cas, il dit la vérité surtout. Et c'est aussi à cause de cela que le diable est déjà condamné à la mort éternelle par Dieu. Son avenir est le sien et celui de ses anges, qu'on appelle démons. C'est sûr et certain, ça sera la mort éternelle. Nous, les croyants, même si nous avons en fait été infectés via la généalogie par le mal diabolique, en naissant de nouveau, notre ancienne nature infectée est maintenant morte et le nouveau bébé incorruptible en Dieu grandit grâce au Saint-Esprit envoyé par Jésus. Vous savez, si je commence peut-être par ça, il y a des mensonges qui circulent qui sont tellement bien présentés qu'elles paraissent presque être une vérité, mais elles mettent en question ce que la Bible dit de vrai. Il y a différentes théories sur l'évolution de la création. Et c'est évident, ces théories, elles sèment le doute. Est-ce qu'Adam était vraiment, comme la Bible dit, le premier être humain que Dieu a créé? Donc, c'est pas rien, tous ces mensonges emballés par ça a évolué. Et parce que si nous croyons ces théories, et quelque chose d'important peut arriver, c'est que le sacrifice de Jésus devient seulement une sorte de belle histoire, un bel exemple. On peut croire que ça a existé, il a fait, il est sympa, mais c'est tout. Puisque Adam n'est pas le premier être humain, mais qu'il y aurait eu la vie humaine avant lui. L'on peut oublier la notion aussi du péché, qui, selon la Bible, a causé la mort. La mort est venue par le péché. Et qu'est-ce qui est vraiment bien? Maintenant, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui est vraiment mal? Sur qui pouvons-nous baser la justice parfaite? Ce mot devrait même être radié si nous pensons comme ça. Et ce que je considère aussi comme autre aberration avancée par différentes sciences, c'est cette reconstitution tellement affinée et très détaillée, par exemple des dinosaures. Hein, ils savent quelle forme ils avaient, comment était leur peau, quelles dents ils avaient, ils avaient des ailes ou non. Et surtout, ces cas n'existent plus. Comment ils peuvent être sûrs que c'était comme ça? En plus, il y a évidemment la datation qui intervient aussi, qui est aussi quelque chose qui dit la Bible dit n'importe quoi. Et j'aimerais vraiment, moi je me le dis à moi, il faut que j'écrase dans moi cette pensée de ces non-vérités, parce que ce ne sont pas des vérités, donc ce sont des mensonges. Et c'est subtilement orchestré par le diable. Et que notre doute sur ce qui est vraiment vrai devienne un amen à ce que dit la Bible. Et par exemple, si je crois que l'époque des dinosaures remonte aussi loin que ce qui est dit, il y a des questions qui restent sans réponse. Quand est-ce que ça a vraiment commencé? Est-ce qu'il y a vraiment eu un commencement? Non, probablement non. Ça s'est fait par hasard. Il n'y a pas de personne d'intelligence, d'une personne qui s'appelle Dieu, qui est derrière tout ça. Quand est-ce qu'il y aura, et aussi pour l'avenir, on peut se poser la question, quand est-ce qu'il arrivera le prochain changement notoire à ces balivernes qui sont dites, n'est-ce pas? Après tout, je me mets à la place de ces extrapolations sur les dinosaures, ça présuppose qu'ils avaient un cerveau qu'on appelle primitif, et ce cerveau, par miracle, par l'évolution, il s'est développé pour devenir un jour un cerveau humain et pour être capable même de modéliser en arrière comment on était. Donc notre évolution de cerveau reptilien est devenue capable de revoir en arrière comment on était. Et retenons surtout ça, c'est Dieu qui est si près de chaque être humain, puisqu'il réalise encore chaque jour le miracle. Je ne sais pas si c'est juste le chiffre, mais je pense que ça doit être le cas. Il réalise encore chaque jour le miracle de millions de nouvelles vies biologiques. C'est un chiffre énorme si on regarde à travers tout le monde, si on pense aussi aux animaux. Et qui d'autre, si ce n'est Dieu, met cette étincelle dans les êtres, dans les créatures qui s'appellent vie, et qu'on C'est un miracle quand même, la vie. Nous devons avouer. Hein? Je suis devenu vous parce que je suis vivant. Mais ce n'est pas un hasard qui m'a fait. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Bien. Après, une autre aberration. Ça, c'est au million ou 100 millions ans près, ils disent des fois, l'âge géologique de certaines parties de la Terre. L'autre jour, mais c'était aux nouvelles, attention, aux nouvelles, ils disent ça. Ils ont montré le cerveau. Il est magnifique, le cerveau. C'est le plus beau monde suisse, la plus belle montagne, et c'est très connu dans le monde entier. Et il disait, un paléontologue, oui, cette montagne, elle date d'entre 60 et 100 millions d'années en arrière. Et puis, la partie supérieure, c'est la partie la plus âgée. Donc, ce qui est le plus âgé est au-dessus et ce qui est plus jeune est en dessous. Et il expliquait que ça proviendrait de sédiments océaniques déposés d'abord, évidemment, comme c'est plus ancien, dans la partie inférieure, mais finalement, c'est la partie plus jeune du cerveau qui a soulevé ce qui est plus ancien. Ça explique pourquoi le plus ancien est au-dessus. Et ça, ce sont des gens intelligents qui étudient, et ça s'appelle les paléontologues, et pour moi, c'est des fabulateurs. Comment on peut dessiner quelque chose qui n'existe pas, en fait, hein? Et vous savez, nous payons des impôts, et ces impôts sont donnés aux universités pour former des gens comme ça. De croire en de tels nombres d'années, nous devrions mettre en doute ce fameux drame cataclysmique. Est-ce que c'est juste mon mot que je dis? Du déluge dont la Bible parle. Et bien sûr, la raison qui va avec pourquoi il y a eu le déluge. À cause du péché et de l'avancement de la méchanceté de l'humanité. Un autre domaine où j'ai des problèmes. À quoi ça sert, vraiment, franchement? Mais vous regardez un peu la recherche d'astrologie. Est-ce que c'est l'astronomie, je crois? C'est l'astronomie. Et de calculer les distances où se trouvent d'autres galaxies en années, en X années-lumière. Hein? Aucun être humain ne pourra jamais y aller, à moins d'être, peut-être ça sera le cas, quand je serai ressuscité, j'aurai obtenu des capacités de déplacement que Dieu a peut-être aussi donné aux anges, je n'en sais rien. Hein? Mais ce qui est sûr, c'est ça qui m'a fait penser. Dieu est omniprésent. Lui, il n'a pas besoin de vitesse de déplacement. Le mystère de cela, vous savez, il y a un passage dans la Bible, en Ézéchiel 1, c'est presque incompréhensible. Si vous lisez ça, et c'est ce passage qui parle de la roue dans la roue. Il y a sûrement des pasteurs qui savent bien expliquer ce passage-là, mais c'est ce mystère de tout ce que Dieu est au-delà de notre compréhension. Le diable et ses œuvres, son influence sont largement décrites dans la Bible. Je vais passer en revue certains versets et je dirais que ce sont des versets dans lesquels Dieu disqualifie le diable, disqualifie. Et réjouissons-nous que Dieu ait disqualifié le diable. Et ça nous fait connaître ses machinations. Car Dieu, il protège ses enfants que nous sommes. Et évidemment, Dieu nous donne envie de le connaître, lui, et de l'écouter, lui, car il nous connaît et il connaît aussi le diable et il n'en cache rien. Il ne cache rien de ses machinations. Alors nous avons déjà eu le premier verset, meurtrier, père du mensonge, Jean 8, 44. Dès le début de la Bible, nous voyons cela. Nous avons eu la tentation d'Ève et Adam, et peu de temps après, le meurtre d'Abel par Caïn. Et n'oublions pas, cet héritage du diable est dans les gènes de tous les êtres humains. Nous le passons plus loin encore. Tant que nous ne sommes pas au ciel, il y a toujours ce danger. Et en Éphésiens 2, 2, nous avons c'est le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Jamais, si vous pouvez me trouver un passage dans la Bible où le diable aurait dit quelque chose de bien sur Dieu, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourtant, ce n'était pas n'importe qui. Hein. Il aurait dû être un ange haut placé, le plus haut placé pratiquement, au service de Dieu. De ce fait, évidemment, comme il a changé d'optique, les personnes qui sont sous son emprise ne vont pas non plus avoir une bonne pensée de Dieu. Au contraire, au lieu de, parce que c'est ce que Dieu, en quelque sorte, a donné son plus grand commandement, nous devrions lui rendre son amour. L'amour qu'il nous donne, nous devrions nous lui en rendre un peu. Et il est vraiment le Père bienveillant, pourvoyant, protégeant, guidant, promettant et tenant ses promesses. Moi, je suis père, j'ai sûrement promis des choses que je n'ai pas tenues, je n'ai pas pu tenir, mais Dieu, il peut tenir ses promesses. Ça, nous pouvons être... Donc, il est digne de confiance et de respect. Comment on devrait respecter dans une famille normale? On devrait respecter les parents, les enfants. Et les gens qui sont influencés par le diable font comme le diable, c'est-à-dire ils se rebellent contre Dieu. Celui qui produit toutes sortes de signes et prodiges mensongers en 2 Thessaloniciens 2, 9. Et aussi, ça va un peu dans cette direction, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière, en 2 Corinthiens 11, 14, partie B. En quelque sorte, ce que ces versets disent, c'est que le diable essaye de singer Dieu. Il essaye de reproduire le vrai Dieu. Et... par des signes et prodiges mensongers, et pour donner envie qu'on devienne égoïste et intéressé à avoir de telles capacités pour notre propre bien. Alors que Dieu, il a donné ces signes, surtout, ça ressort surtout dans le début de la création de l'Église. il a donné ses signes et prodiges pour rendre les hommes plus confiants en lui. Et même à travers Israël, il voulait que ce peuple élu gagne en confiance envers Dieu. Donc nous devrions dire à lui soit la puissance, la gloire et l'honneur, comme Apocalypse 4, 11. Ensuite, le diable, plein de ruses et de fraudes, ennemi de toute justice. Acte 13, 10, c'est le propos que le Saint-Esprit a donné à Paul dans la situation avec le magicien Elimas. Et ça me fait penser que c'est une confirmation pratique des lois lévitiques. Il y a un verset, je ne l'ai pas cherché, mais qui dit qu'il n'y ait parmi vous aucune personne qui pratique la magie ou la divination. Dieu est contre cela. Et vous savez, à la maison, je reçois chaque semaine un téléphone. Oui, secrétaire de l'astrologue. Des fois, je me fâche et je dis, vous allez en enfer. Mais je ne sais pas quoi répondre, en fait. Mais il devrait lire tous ces passages qui les concernent, ces gens. Ensuite, nous avons le prince du monde en Jean 14, 30. Et en Jean 16, 11, il est dit, il est jugé par Dieu. Et Pasteur Texier avait dit quelque chose de bien compréhensible à ce sujet. Il a dit, Adam, à qui était destiné le règne de la terre, de s'en occuper, il l'a légué au diable. Et Jésus, lui, a racheté, et finalement le jugement final pour cette usurpation attend le diable. Ensuite, 2 Corinthiens 4, 4. Le Dieu du siècle qui aveugle les pensées afin que l'on ne voit pas resplendir la glorieuse bonne nouvelle du Christ qui est l'image de Dieu. Attention à ce danger, le diable qui nous emballe dans un joli paquet des cadeaux, mais qui ne sont pas des cadeaux, et ce sont des paquets piégés. Et à travers sa parole, Dieu nous ouvre ces paquets piégés dans la Bible. Le paquet piégé du diable, il nous l'ouvre. La gloire de Dieu a éclaté quand Jésus est ressuscité pour nous offrir son salut. N'est-ce pas une glorieuse bonne nouvelle? L'impie dont 2 Thessaloniciens 2, 8. J'avais traduit une fois ce que ça signifie. L'impie, c'est qui ne vénère pas Dieu. Mais il y a des Bibles ou d'autres versions de Bible qui disent l'inique à la place, l'inique. Et j'ai trouvé ça une bonne traduction possible, même si elle n'est pas faite comme ça en français, mais j'ai regardé l'allemand, et en allemand, ce terme dit le sans-loi. Le diable est sans-loi. Celui qui détenait le pouvoir de la mort, en Hébreux 2, 14. Nous savons que la mort est quelque chose qui nous préoccupe tous. Mais nous savons qui l'a vaincu. Et Dieu, il traite la mort d'ennemis. Il la laisse cependant jusqu'à la fin des fins. En 1 Corinthiens 15, 26, ceci est dit. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort. Même Jésus en a parlé énormément. Et j'ai vu dans le Nouveau Testament le mot pour mort, c'est Thanatos. Ça s'est cité plus de 100 fois. Donc ce n'est pas anodin comme terme utilisé pour dire quelque chose. Ensuite, je commence par une partie du verset, c'est 1 Jean 3, 8, partie B. Car dès le commencement, le diable pêche. Ça veut dire le diable, il le pratique constamment, le péché. Il le pratique constamment. Alors je lis tout le verset. Celui qui pratique le péché est du diable. Car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Mais nous avons un verset rassurant qui suit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Né de Dieu, c'est l'homme avec la nouvelle nature qui reste pour quelque temps à côté de sa vieille nature. La nouvelle, elle ne peut pas pratiquer le péché, pas comme le diable le fait constamment. Elle ne peut pas pratiquer. Et cette nouvelle nature, elle est malheureuse si elle ou l'ancienne qui est encore à côté le fait. C'est pour ça aussi qu'on demande pardon à Dieu. Et vous savez, si je me parle à moi, hein, ma nouvelle nature devrait régulièrement dire à mon ancienne, tais-toi, tu es morte, tu as été crucifiée. De la part de Dieu, c'est moi ton autorité. C'est ça qu'on devrait se dire par la nouvelle nature. Le Saint-Esprit nous aide à faire ça. Et encore deux passages. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Et nous savons pourquoi il a fait ça. Il disait au verset 5, Satan disait à Dieu, « Tu verras si Job ne te maudit pas en face. » Il n'a pas maudit Job. Lorsqu'un malheur qui nous paraît immérité, ça arrive des choses, on est vraiment désespéré, nous frappe. Ayons l'attitude que Job avait envers Dieu. Cela pourrait être une épreuve permise par Dieu dont le diable est l'exécuteur. Ensuite, je prends encore un extrait de l'explication de la parabole du semeur par Jésus en Matthieu 13, 9. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Celui, c'est parce que ça parle du grain. Le grain, c'est là le grain qui a été semé le long du chemin. Que pouvons-nous faire comme semeurs délégués par Dieu, nous allons semer la bonne semence, la bonne nouvelle dans les rues et dans nos familles, dans notre entourage, nous pouvons peut-être ne pas perdre notre temps à semer le long du chemin, c'est-à-dire ne pas insister auprès des gens qui ont des terrains de bordure de chemin. Les gens dont nous soupçonnons que le méchant rôde autour pour ravir la bonne semence. Et je crois que Pastor Stevens, il a fait une interprétation sur les six types de terrains où tombe la bonne semence. Et il a dit que le seul, c'est ce premier-là, où les gens ne trouveraient pas le salut. Donc, le long du chemin, c'est perdu. Ils accepteront pas le salut. Les cinq autres ont tous une chance de trouver le salut. Et vous savez, c'est un autre genre de la part du Satan. Il est voleur. Il vole ce qui est bon. Il vole ce qui est gratuit et disponible en abondance. Ensuite, le dernier passage, avant ma conclusion, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Et ce qui m'a attiré, je voulais un peu savoir pourquoi il parle de dans les lieux célestes pour ces puissances méchantes. Et dans le commentaire biblique du chercheur, j'ai trouvé que Satan habiterait dans les cieux. Ça sort de Éphésiens 2:2. Où il est question de chef de l'autorité de l'air. Ça vient de là. Et il habite là jusqu'à ce qu'il en soit retiré lors de la grande tribulation, en Apocalypse 12, 9 et 10. Conclusion de tout ça, ce sombre tableau. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous reconnaissons être les enfants de Dieu avec un désir de lui obéir en résistant au diable, c'est-à-dire nous sommes fermement opposés au diable, Dieu le fera fuir. Et vous savez, ça, on devrait comprendre aussi, le diable n'a pas peur de moi, il n'a pas peur de vous, il a peur de Dieu en moi, et il a peur de Dieu en vous. Amen.
Merci beaucoup, Helmut. Donc, nous avons un ennemi qui nous déteste. Nous sommes équipés par la parole de Dieu. Nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Nous avons accès dans un département d'intelligence militaire au ciel. Et nous sommes équipés avec les armes spirituelles et pas des armes de la chair. Et donc, c'est toujours bien d'être informé, de toujours rappeler ces vérités, comme Helmut a dit, de méditer sur ces versets, parce que c'est facile à oublier certaines choses. Pastor Stevens a parlé dans un message, je crois que c'est corps de Pentecôte, que si on entend quelque chose 38 fois, on va absorber juste 10% de ça. Donc, Ça veut dire répétition, répétition, répétition. On doit toujours écouter ce qui sont pour nous, peut-être on a déjà entendu ça, mais il faut réécouter, il faut toujours rappeler ces choses parce que le monde est là pour enlever ces choses et on oublie avec tout ce qui passe les choses les plus importantes. Donc répétition, être informé, être équipé et de jamais... Il y a deux choses à dire. Le diable, il travaille dans deux sens. Il préfère que les gens pensent qu'il est plus puissant qu'il est en réalité. Et on voit ça à Hollywood, on a des images, des films de le diable, et on pense qu'il est plus puissant. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il ne sait pas qu'est-ce qu'on pense en réalité. Il voit nos visages, mais il ne peut pas discerner nos pensées. Il est juste un... qu'est-ce qu'on peut dire? Il est un dossier sur chacun de nous. Ça s'appelle méthodologia en grec. Et ça, c'est la tactique du diable, les ruses du diable. Il a cet dossier, il sait exactement connaît les choses de nous. On vit par la grâce, on est couvert, comme Helmut a dit, on est soumis. Et deuxième chose, il préfère deux choses. C.S. Lewis a cité ça. Il aime de voir que les gens pensent qu'il est plus puissant qu'il est en réalité, donc une fausse image du diable et d'avoir une crainte de lui excessive. Et de l'autre côté, d'ignorer qu'il existe. Et les gens pensent, ouais, il n'existe pas. Et donc, il préfère qu'on vive dans l'un ou l'autre et d'avoir un respect, pas un respect pour lui, mais un, qu'est-ce qu'on peut dire? On n'est pas familier avec sa puissance. On n'est pas, qu'est-ce qu'on dit? Je cherche pour le mot. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs du diable. Mais on ne vit pas comme le diable est partout dans les coins et chaque fois que le cuisinier ne tombe en pas ou la voiture ne tombe en pas, on pense « Ah, c'est les démons de nouveau ». Non, des fois c'est une attaque démonique, mais pas tout le temps. Donc si le pizza brûle dans la cuisine, ce n'est pas le diable. Normalement. Et la deuxième chose, on est par « voilà, il n'existe pas ». Oui, des fois, il fait des choses, on ne sait pas. C'est pourquoi que des choses passent dans ce monde. Et, par exemple, l'évangélisation, on décide de venir pour l'évangélisation, quelque chose passe, peut-être parce qu'on est dans un monde conduit par le diable, parce que c'est lui qui contrôle ce système cosmos diabolicus, et c'est nous qui, comme l'exhaust d'une voiture, qui pompe la pollution. Est-ce que ça, c'est le bon mot? Quand on conduit la voiture, qu'est-ce que sort par les gaz d'échappement sortent. Et dans le même sens, chaque fois qu'on vit dans notre ancienne nature, qu'est-ce que se passe? C'est exactement la même chose. On ajoute des pollutions dans ce système mondial et le diable peut contrôler ce système et plus de pollution. Donc, en bref, comme Helmut a dit, soumis au Dieu. On est caché, on est protégé et il est craint de nous. Voilà.